Il est midi et demi sur France Culture. L'heure de retrouver le journal d'Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour. Madrid contre Barcelone, nouveau bras de fer aujourd'hui. Le Sénat espagnol devrait donner son feu vert à un contrôle de la Catalogne par le gouvernement de Madrid. Et de son côté, le Parlement catalan devrait prononcer la République catalane. Le Kenya, plus divisé que jamais au lendemain d'une présidentielle très largement boycottée. Le scrutin a été le théâtre de violences. Plusieurs partisans de l'opposition ont été tués. 3 ans de prison avec sursis pour Théodorine Obiang. Le vice-président de Guinée équatoriale a été reconnu coupable de s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. Sa défense dénonce une décision militante. Invitée de ce journal, Mathilde Julievieux, fondatrice du site internet Chère Collaboratrice, un site qui recueille depuis 2016 des témoignages de victimes de harcèlement sexuel dans le milieu politique. Midi 55, la grande table, deuxième partie avec vous Olivia Gesbert.
Oui, on poursuivra dans le fil de l'interview que vous allez mener Antoine Maret. C'est une journée spéciale aujourd'hui sur France Culture, hashtag violence sexiste et maintenant l'affaire Weinstein et ses suites. Cette séquence est-elle révélatrice des rapports entre les sexes? Que fera-t-on à l'avenir de cette parole libérée? Nous, on va en parler avec notre invitée, la philosophe et historienne de la pensée féministe, Geneviève Fraisse, qui republie aujourd'hui dans une édition augmentée l'un de ses essais phares du consentement. Elle sera avec nous à partir de 12h55.
À tout à l'heure. Le bras de fer entre Madrid et Barcelone va connaître une nouvelle étape aujourd'hui avec 2 séances parallèles. D'un côté, le Sénat espagnol qui devrait donner son feu vert à un contrôle de la Catalogne par le gouvernement de Madrid. Et de l'autre, le Parlement catalan qui pourrait répliquer en proclamant la République catalane. À Madrid, les précisions de Pierre Chaperon.
Une ligne très ferme. Quand Mariano Rajoy prend la parole au Sénat dans cette journée cruciale, il utilise des termes très durs. En Catalogne, ils ont ignoré les lois. Ils les ont violées, dit-il. Le ton est donné. Le président du gouvernement défend pendant une 30 minutes l'application de l'article 155, légitime son action, parle de destituer le président de la Catalogne de la tenue d'élections le plus rapidement possible. Salve d'applaudissements. L'objectif est clair, réaffirmer la fermeté de Madrid face à la Catalogne. L'issue du vote ne fait, elle, pas de doute. Avec une majorité au Sénat, le parti du gouvernement, le Partido Popular, avec l'appui notamment du Parti Socialiste Espagnol, devrait voter pour lancer la mise sous tutelle de la Catalogne. Le discours offensif de ce matin est venu confirmer l'objectif clair, réinstaurer la loi dans cette région de l'Espagne.
Le Kenya, plus divisé que jamais au lendemain d'une présidentielle très largement boycottée. Le scrutin a été le théâtre de violences. Plusieurs partisans de l'opposition ont été tués. Le résultat ne fait aucun doute. Le sortant Uhuru Kenyatta est assuré de l'emporter. Son rival historique Raila Odinga n'a d'ailleurs pas participé à ce qu'il qualifie de mascarade électorale. La crédibilité du scrutin est largement entamée par les tensions et le vote a même été reporté dans l'ouest du pays où vous vous trouvez, Laure Broulard.
Nous demandons à la Commission de prendre ses urnes et de partir. La région ne participera pas à ces mariages forcés. Le peuple a parlé. La mariée a dit non, déclare l'évêque David Godia à l'hôpital central de Kisumu. C'est là que ce matin, les leaders politiques et religieux se sont retrouvés pour rendre visite aux victimes des échauffourées de la veille. 3 morts et 15 de blessés par balle lors d'affrontements entre des partisans de l'opposition et la police, selon le gouverneur Peter Anyang Nyong'o. Il a de nouveau assuré ce matin qu'il n'y avait pas d'élection dans son comté. Hier, aucun bureau de vote n'a pu ouvrir dans la circonscription du centre-ville. Les nombreux barrages qui quadrillaient Kisumu ont rendu impossible la distribution du matériel électoral. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais demain, nous ferons la même chose, promettent les habitants. L'opposition dénonce une parodie d'élection organisée par une commission électorale biaisée et illégitime. Ce midi, le matériel électoral est toujours bloqué au centre de comptage de voix du centre-ville, tandis que les agents de la commission se réunissent pour évaluer la situation sécuritaire en vue du vote de demain. Mais si Raila Odinga maintient son appel au boycott, rien ne changera, car à Kisumu, la parole de Baba fait loi.
Merci à vous, Laure Boulard, en direct de l'ouest du Kenya. Le soupçon est désormais officialisé par l'ONU. Damas a bien utilisé du gaz sarin lors d'une attaque qui a eu lieu en Syrie en avril dernier. dans la province d'Idleb, contrôlée par des rebelles et des djihadistes. L'attaque avait fait plus de 80 morts, dont une bonne partie étaient des enfants. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
On s'en souvient, cette attaque avait provoqué une très vive réaction de Washington.
Oui, l'administration Trump avait tiré 59 missiles Tomahawk dans la nuit du 6 au 7 avril dernier sur une base aérienne syrienne, d'où avait décollé un avion, lequel avion avait largué du gaz sarin sur la ville de Ran Cheroun. Les opposants au régime syrien avaient affirmé à l'époque connaître le nom du pilote ainsi que le plan de vol de l'avion, mais Damas avait démenti toute implication. Depuis, des experts de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se sont rendus sur place. Leur rapport a conclu à la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans cette attaque au gaz sarin. Ainsi, il faut le noter, qu'à la responsabilité de l'État islamique dans l'utilisation de gaz moutarde contre une autre ville syrienne en septembre 2016. Pour l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, le Conseil de sécurité doit envoyer un message clair. Aucun usage d'armes chimiques ne sera toléré, a-t-elle dit. Tout pays qui refuse à le faire ne vaut pas mieux que les dictateurs et les terroristes qui les utilisent. Fin de citation. Créée en 2015, la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Syrie avait déjà conclu par le passé à la responsabilité du régime syrien dans 3 attaques au chlore. Son mandat doit expirer en principe à la mi-novembre. La Russie a déjà bloqué une résolution mardi qui vise à prolonger son travail. Moscou, qui a dénoncé ce matin les incohérences du rapport rendu hier et l'utilisation de témoignages douteux et de preuves non confirmées, on n'en attendait pas moins de la part d'un des plus fidèles soutiens à Bachar el-Assad.
Merci à vous Valérie Crova. Midi passé de 37 minutes sur France Culture, 3 ans de prison avec sursis pour Théodorine Obiang. Le vice-président de Guinée équatoriale a été reconnu coupable de s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. Il a également écopé d'une amende de 30 millions d'euros avec sursis et ses biens saisis ont été confisqués. Bonjour Sarah Petitbon.
Bonjour Antoine.
La défense de Théodorine Obiang dénonce, je cite, une décision militante.
Oui, Théodorine Obiang n'a eu de cesse, comme le pouvoir équato-guinéen, de contester la tenue de ce procès en France et la légitimité de la justice française. Il ne s'était d'ailleurs pas présenté à l'audience en juin dernier. Les parties civiles, elles, se félicitent du verdict et parlant d'une décision historique, car ce jugement, le premier du genre, est l'aboutissement d'une longue épopée judiciaire débutée il y a près de 10 ans. L'enquête, faite de recours et de saisies spectaculaires en plein Paris, avait mis au jour le patrimoine considérable de Théodorine Obiang, constitué notamment d'un immeuble luxueux de 4000 mètres carrés sur la très huppée avenue Fauche à Paris, bâtiment estimé à 107 millions d'euros, mais aussi des voitures de luxe et de sport, des collections d'œuvres d'art, des bijoux et des vêtements de marque. Au terme de l'instruction, les juges avaient estimé que ce patrimoine ne pouvait avoir été financé par les seuls revenus officiels de Théodorine Obiang, mais était issu de détournement de fonds publics et de la corruption. Ce matin, le fils du président équato-guinéen a donc été reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, de blanchiment d'abus de confiance et de corruption. Il est le premier dignitaire à être jugé et condamné dans le cadre des procédures dites de biens mal acquis. D'autres procédures de ce type sont en cours. Elles concernent le patrimoine de l'ancien dirigeant du Gabon, Omar Bongo, mais aussi celui de la famille du président congolais Denis Sassou Nguesso ou de l'ex-dirigeant centrafricain François Bozizé.
Merci à vous Sarah Petitbon. En Guyane, 5 personnes ont été interpellées après les affrontements d'hier soir à Cayenne, affrontements au cours desquels 2 policiers et 1 gendarme mobile ont été blessés. Dans la nuit, des manifestants du collectif Pour la Guyane décollée ont allumé des feux près de la préfecture et du commissariat, une réaction au déplacement en Guyane d'Emmanuel Macron. Déplacement 6 mois après un mouvement social important contre les conditions de vie sur place. Bonjour Ludovic Piétonnier.
Bonjour Antoine.
Le chef de l'État ne s'attendait pas à un tel accueil.
Non, c'est vrai que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, plus encore que ses prédécesseurs, l'Élysée nous habitue à ses propres images léchées, soignées d'un président sur le terrain au contact des Français. C'est bien ce qui a été fait dès son arrivée dans l'après-midi dans cette ville de Maripasoula, à l'extrême l'extrême sud du département guyanais, une ville sans hôpital que l'on relie par une route de terre depuis Cayenne. Le président lui a pris l'hélicoptère et en se promenant longuement dans les rues, il a bien vu les pancartes brandies par les habitants. Nous sommes dans une situation déplorable ou bien encore nous sommes en souffrance. Mais que leur dit-il à ceux qui demandent des conditions de vie égales à l'Hexagone et le respect des accords d'avril, pris, il est vrai, par le gouvernement précédent? Que leur dit-il, fidèle à son mantra « je suis là pour dire les choses en vérité » Eh bien, il ajoute « je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas venu faire de grandes promesses en l'air, les engagements pris seront tenus, pas plus, pas moins ». Sauf qu'en réalité, il revient sur les promesses faites au printemps, sur les 3 milliards évoqués dans les accords de Guyane, il s'engage sur 1 milliard 100 seulement, d'où la colère de la population dans la nuit, dans les rues de Cayenne et devant la préfecture. Même l'association des maires de Guyane qui a rencontré le chef de l'État a jugé la réunion en demi-teinte, bien conscient que l'accord passé ne sera respecté qu'en partie, essentiellement sur les volets immigration, sécurité et minima sociaux. C'est d'ailleurs sur ces points qu'Emmanuel Macron compte encore insister dans quelques minutes, puisqu'il débutera cette deuxième journée de visite dont il va devoir à coup sûr, vu la pression, modifier et le fond et la forme.
Merci Ludovic Piétenu. Va-t-il y avoir une fusion entre France 3 et France Bleu, entre la chaîne de télévision publique des régions et le réseau des locales publiques de radio? C'était une proposition du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, dans un contexte de rigueur budgétaire. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lui a répondu ce matin sur l'antenne de France Inter.
L'exemple a été montré là. Ce genre de coopération qui s'est mis en route entre France Télévisions et Radio France.
Sur
avec
la chaîne France Info, oui.
Qui en fait un média multicanal. C'est extraordinaire. Au début, crainte. Aujourd'hui, l'excellence est reconnue et tout le monde est content. De quoi il s'agit? D'une coopération, de synergie. C'est le mot que j'utilise et c'est ce que je privilégie.
Pas fusion.
Pas fusion. Fusion, c'est de tout mélanger. Comme la mondialisation par rapport à la mondialité, il faut respecter les spécificités de chacun et c'est de ça qu'il s'agit, la diversité, à travers les bonnes coopérations pour trouver les meilleurs moyens de fonctionner en rationalisant. Voilà. La coopération entre France 3 et Radio Bleu, France Bleu, elle existe déjà localement, par exemple sur des lieux immobiliers. C'est des choses comme ça auxquelles on demande de réfléchir. On n'est pas parce que on est dans ces missions-là qu'on ne doit pas réfléchir à fonctionner au mieux en faisant des économies qui ne sont pas des économies qui empêchent les missions essentielles du service public.
Françoise Nyssen au micro de Marc Fauvel. L'écriture inclusive ou le péril mortel de la langue française. Péril mortel, ce sont des mots très forts qui ont été employés par les sages de l'Académie française dans un communiqué hier soir. Alors l'écriture inclusive, on en a beaucoup entendu parler. Il s'agit en fait, ça apparaît dans certains manuels scolaires, ça consiste en fait à écrire le mot masculin suivi d'un point, suivi de sa terminaison au féminin, au nom de l'égalité homme-femme. Qu'en pense l'académicienne française Danielle Salnave? Hakim Kasmi lui a posé la question.
Moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut lutter contre les stéréotypes de genre. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une idée qui nous a été plus ou moins apportée par le Vatican, qu'on enseignait une théorie des genres. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça qu'on enseigne. On n'enseigne pas aux petites filles qu'elles pourront devenir des petits garçons. Tout ça, c'est de l'intox. La réalité, c'est bien, c'est qu'il faut enseigner aux enfants à se dégager des stéréotypes. Mais si vous écrivez IDOALES, etc., vous tombez dans une chose qui est impraticable. On n'y arrivera pas. Il y a un vrai problème. La preuve, c'est que le président, qui en est bien conscient, de façon un peu mécanique, mais bon, dit tout le temps ceux et celles, pour pas comprendre ce qu'il parle uniquement aux hommes. Bon, on est dans une période de transition qui va être très longue. Il faut qu'on s'occupe de l'accès des femmes au pouvoir, de l'accès des femmes à la direction des entreprises, de l'égalité des salaires. Tout ça, c'est très important. On ne va pas résoudre ce problème parce qu'on aura mis celles et ceux et les idéales au pluriel. Ça n'a pas de sens. En même temps, en tant que femme, je vois bien les points par lesquels les femmes sont toujours le deuxième sexe. Simone de Beauvoir a toujours raison. Mais c'est pas en changeant à ce point la figure de la langue qu'on va le résoudre. On peut imaginer, il faut réfléchir à des solutions, l'accord de proximité. Moi, je pense qu'on peut revenir aussi sur... l'académie était un peu raide là-dessus. Est-ce qu'il faut dire Madame le ministre? Moi, je crois qu'on peut tout à fait dire Madame la ministre, parce que ministre est un mot qui n'est ni masculin ni féminin. Donc, il faut bien lui mettre un article. C'est vraiment un mot neutre. Donc, il faut mettre un article. Comme ça, on saura que c'est Madame Françoise Nyssen ou c'est Monsieur Gérald Darmanin. On saura. Voilà. Mais, allez... introduire dans la langue quelque chose qui la rend illisible, incompréhensible et encore plus difficile à enseigner, déjà qu'on n'y arrive pas, et qu'on a 20% d'enfants qui ne savent pas lire en sixième, ben on en aura 50 si ça continue.
Un mot maintenant à propos des APL. Vous le savez, le gouvernement a décidé de les baisser de 5 euros. Un collectif d'associations est allé devant le Conseil d'État. Eh bien, sachez que le Conseil d'État rejette le recours contre cette baisse de 5 euros des APL. C'est ce qu'on vient d'apprendre.
Midi 45 et une journée spéciale aujourd'hui sur France Culture consacrée aux violences faites aux femmes, violences sexuelles notamment. La suite de votre journal, Antoine Maret.
Le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a lancé hier une campagne intitulée « Arrêtons-les » sur Internet et les réseaux sociaux pour rappeler les peines encourues pour violences sexistes, notamment jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour avoir notamment mis la main aux fesses d'une femme et jusqu'à 6 mois de prison pour avoir traité une femme, je cite, de salope parce qu'elle portait une jupe. Sophie Delpont a recueilli le témoignage d'une fonctionnaire de l'Assemblée nationale qui raconte ce qu'elle a vécu.
C'est un peu difficile d'en parler parce que certains sont encore députés. Ce député m'avait fait un cadeau qu'en fait j'avais pas su refuser parce que j'étais un peu sidérée sur le moment. Et lui a utilisé ça pour ensuite me dire que j'avais répondu à ses avances en fait. Mais le plus douloureux, en fait, c'était ensuite qu'il aille trouver ma hiérarchie pour remettre en question mon travail, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que mon chef est venu me voir. C'était la première fois qu'un député venait remettre en question la qualité du travail que je fournissais. J'ai fait l'objet, moi, d'aucune sanction, mais lui n'a pas fait l'objet de mesures particulières. Et encore une fois, en fait, c'est quelqu'un qui avait cette réputation. Je me suis sentie piégée, humiliée. Et j'étais assez en colère contre le député lui-même et contre une sorte de système, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de culture. Il suffit qu'on soit une femme et qu'on accompagne un député à l'étranger pour qu'il se sente autorisé à faire des avances. Et aussi l'idée que la femme est là pour servir un homme, lui procurer des services, y compris sexuels, à disposition, en fait.
Invitée de ce journal, Mathilde Julliet-Viaud. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous travaillez au Parlement, à l'Assemblée nationale. Vous êtes collaboratrice du député France Insoumise, François Ruffin, c'est bien ça?
Et de Daniel Obono aussi.
Et de Daniel Obono. Et vous êtes fondatrice du site internet Chère Collaboratrice, Chère, C-H-A-I-R, un site qui recueille depuis 2016 des témoignages de victimes de harcèlement sexuel dans le milieu politique. En quelques mots, comment vous est venue cette idée ?
Alors, tout de suite après l'affaire Baupin, on a été très frappés par la teneur des réactions. Contrairement à ce à quoi on s'attendait à une prise généralisée de conscience de l'ampleur du phénomène et de la violence du phénomène sexiste dans le milieu politique. Ça n'a pas du tout été le cas. En réalité, tout ce qu'on a entendu autour de nous visait à délégitimer les plaintes, les personnes qui avaient porté plainte contre Denis Baupin, en disant qu'elles avaient un agenda politique, par exemple, ou à accuser l'épouse de Denis Baupin de faire mal son travail. On a été absolument sidérés par ce type de réaction, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour démontrer le caractère assez massif en politique de comportements sexistes.
Et pourquoi c'est un milieu à risque plus que d'autres professions ?
Alors je me risquerai pas jusque là parce que je connais pas d'autres professions, donc je n'ai pas cette expérience là. Pour autant, c'est un milieu qui reste à risque parce que il y a un rapport de domination. Si vous voulez, le milieu politique est un monde d'hommes. C'est le rôle social de personnalité politique est un rôle social qui a été fait par les hommes et pour les hommes. Et donc il y a des processus permanents de délégitimation des femmes de façon constante. Qu'elles soient députées, on l'a vu avec Cécile Duflot qui se fait siffler à l'Assemblée nationale quand elle porte une robe, mais aussi quand il s'agit de collaboratrices parlementaires en délégitimant leur travail ou en ayant des comportements harcelant mon proche.
Et la parité, même si elle n'est pas forcément encore tout à fait effective, est-ce que ça peut changer quelque chose ?
Bien sûr, je pense que on va probablement, en allant vers plus de parité, réussir à changer les habitus dans le monde politique. Pour autant, les choses sont ancrées aussi chez les femmes. Il y a un processus de déconstruction des violences sexistes qu'on vit au quotidien, que les femmes aussi ont intégré, avec une certaine tolérance, en disant « écoute, c'est de la blague, etc. Pourquoi tu réagis comme ça ?» Que les femmes ont elles-mêmes intégré. Et donc, il faut aussi dénoncer de façon massive pour que les personnes prennent conscience, parce que c'est en démontrant qu'on va réussir ensuite peut-être à démonter tous les processus de sexisme.
Sur le site internet dont vous occupez, chère collaboratrice, alors les témoignages sont très variés, hein, ça va des propositions indécentes, insistantes, des mots crus, très vulgaires dans un contexte professionnel, les gestes déplacés, et puis ce témoignage d'une jeune collaboratrice au Sénat à qui un homme dit « On m'avait dit que vous étiez jolie, je ne pensais pas que vous étiez jolie à ce point ». Ça, c'est du harcèlement ?
Ça dépend, en réalité. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit de rapports et de relations de travail normales, sachant que dans le témoignage, la collaboratrice vient d'arriver à son poste et que c'est son supérieur hiérarchique qui lui fait la réflexion ? Est-ce qu'il s'agit d'un rapport de travail normal, que la femme soit rappelée à son physique alors qu'elle est embauchée pour sa compétence et que c'est pour cela qu'elle doit être valorisée ?
Et puis, ce que disent beaucoup de femmes qui témoignent, c'est que souvent, en fait, ce qui peut les sauver, c'est la bonne répartie, le bon mot, au bon moment. Alors, j'en ai cité quelques-uns. Alors, si vous avez des enfants, éloignez-les du poste. Alors, c'est un directeur de service qui dit « Petite, tu as un cul qui attire la main ». Et elle lui répond « Et toi, c'est ta gueule qui attire la main ». Et ça lui sauve la vie. Pendant
tout
le...
à fait.
Voilà. Et ça marche très souvent, mais il faut trouver le bon mot au bon moment.
Exactement. Il y a véritablement un processus de sidération, parfois, qui se produit quand on est victime d'une réflexion et qu'on ne s'attendait pas à, dans son environnement de travail, à vivre cela. Mais il y a des femmes qui, effectivement, font preuve d'une répartie impressionnante. C'est quelque chose qu'on veut mettre en avant aussi dans les témoignages. Il y a un autre témoignage que vous n'avez pas cité, je peux me permettre peut-être de le citer. Il y a une jeune femme collaboratrice dans un cabinet ministériel qui fait une réunion de travail avec un député qui lui dit « Écoute, je n'ai jamais couché avec une arabe, est-ce que ça te dirait ?» Et elle lui répond « Écoute, je n'ai jamais giflé un député, est-ce que ça te dirait ?» Et c'est vraiment...
Il y en a une autre là. « Nous allons commander du vin, je vais vous saouler, ainsi je pourrai abuser de vous », dit un maire. Et la collaboratrice lui répond « Ne vous inquiétez pas, nous n'avons encore rien bu et vous me saoulez déjà. »
Voilà, par exemple. Et c'est vraiment des processus d'empowerment, pour employer un mot qu'on devrait transcrire en langue française, je pense, qu'on devrait pouvoir enseigner aux femmes. Publier ce genre de témoignage permet aussi aux femmes de se sentir complètement légitimes pour retourner à l'envoyeur ces violences-là.
Oui, parce qu'il faut une certaine confiance en soi pour répondre cela, trouver le bon mot au bon moment.
Exactement, et en fait le processus de délégitimation des femmes fait que tout de suite l'objectif étant de saper la confiance en soi des femmes, c'est ce qui produit le sentiment de sidération, et c'est ce qui fait que parfois les femmes ont des difficultés à répondre. Et effectivement, je pense que on pourrait imaginer des formations d'improvisation, de stand-up, etc. pour apprendre aux femmes à avoir confiance en elles en toutes circonstances.
Alors vous êtes de gauche, hein ?
Oui.
Assez à gauche, France Insoumise. Ouais. Le sexisme, ça concerne aussi bien la droite que la gauche ? Ou c'est un peu plus la droite ? Que la gauche,
c'est difficile à dire. Dans les témoignages qu'on a reçus, il y avait des témoignages qui venaient de personnes, de collaboratrices de gauche comme de collaboratrices de droite. Peut-être que dans les usages de la gauche, le fait de dénoncer ce type de comportement est quelque chose qui est plus habituel. De déconstruire les rapports de domination, etc. Ça fait un petit peu partie de l'ADN de la gauche radicale, disons.
Il y a une dame qui n'est pas d'accord.
Oui, la dame, c'est Geneviève Fraisse, qui est l'invitée de la deuxième partie de la Grande Table. Vous voulez dire un mot, Geneviève Fraisse ?
Non, je pense qu'il ne faut pas faire de la psychologie dans cette affaire. Et notamment, par exemple, sur la question de la gauche et du féminisme, c'est deux siècles de contradictions théoriques et stratégiques. Donc, c'était juste...
petite insertion, une remise. Non, mais vous avez raison. Mais dans les témoignages, oui, et c'est pas... Mais dans les témoignages que nous avons reçus, il est vrai, et dans la formation de notre collectif, il est vrai que plus de personnes viennent de gauche, et nous espérons que véritablement une prise de conscience de tous les côtés pourra s'installer, et voilà.
Aucun problème de sexisme au sein de la France Insoumise ?
Pas à ma connaissance, après je suis là depuis 3 mois, donc pour l'instant je n'ai pas eu de témoignages qui venaient de la France Insoumise.
Geneviève Fraisse, peut-être juste un mot, parce que vous avez été députée européenne, les partis vous les connaissez aussi, même si vous n'évoluez pas, et loin de là, que dans ce cadre-là, mais plutôt dans le cadre académique, celui de la recherche. Vous avez vu une évolution des mentalités.
C'est un peu particulier.
Depuis le vote de la loi sur la parité, le vote de la loi sur l'égalité homme-femme en politique, donc la fin des années 90, c'est ce qu'il semblerait aujourd'hui, avec un peu plus de femmes parmi le personnel politique, que les rapports sont en train d'évoluer entre les sexes au sein du monde
d'abord,
politique.
D'abord, ma parenthèse politique remonte maintenant déjà à plus d'une quinzaine d'années. Secondement, quand j'ai été au Parlement européen, il y avait 30% de femmes dans l'Assemblée européenne, ce qui est une sorte de seuil de mixité. Donc quelque chose est totalement différent par rapport à cette hiérarchie qu'il y a à l'Assemblée nationale, avec peu de femmes élues et une cohorte de collaboratrices. Donc la hiérarchie sexuelle de genre est totalement différente de ce qu'on peut vivre au Parlement européen, où je dois dire le brassage des langues et des cultures rendrait plutôt les choses j'ai envie de dire gay.
Merci à vous, Geneviève Fraisse. On vous retrouve dans la deuxième partie de la Grande Table. Merci également à vous, Mathilde Juliévio. Et votre site internet, c'est donc
Cherecollaboratrice.com.
Cet après-midi, le temps sera couvert sur un quart sud-ouest du pays. Ailleurs, c'est le soleil qui va dominer. Malgré cela, les températures vont quelque peu baisser par rapport à hier. 13 degrés à Reims, 15 à Paris, 22 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Lise Verbeck.